Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bienvenue dans l'émission On en parle sans tabou, votre émission de témoignages autour de sujets de société. Je suis Loïc Joaquin et ensemble aujourd'hui, la dépression postpartum, on en parle sans tabou. La dépression postpartum concernerait 16,7% des femmes 2 mois après leur accouchement selon les résultats de l'enquête nationale périnatale menée en 2021. Ce trouble associerait une tristesse intense et inexpliquée, une labilité émotionnelle, des troubles du sommeil, des croyances négatives avec un sentiment de culpabilité, une perte d'intérêt pour le nourrisson, une dépréciation de ses compétences maternelles, voire des idées suicidaires. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'être avec le docteur Fanny Boer-Mottier, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Tout commence par une pensée ». Salut Fanny, pardon.
Bonjour Loïc, bonjour à tous nos auditeurs, très heureuse d'être parmi vous.
Et cette émission ne serait rien sans témoignage sur ce sujet. Alors nous recevons aujourd'hui Audrey Urtis Mareillé, 35 ans, 2 enfants, Seiji, 4 ans et Kidjani, dis-moi qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui, qu'on entendra peut-être nous faire un petit coucou. Audrey Urtis est artiste, danseuse professionnelle, réalisatrice et monteuse avec un documentaire en cours de réalisation.
Totalement.
Salut Audrey.
Bonjour.
Ça va?
Oui, bonjour à toi Loïc. Bonjour tout le monde.
Bienvenue.
Et Kidjani, il a 11 mois, je précise.
Il a 11 mois, ouais, c'est vrai qu'on s'est eu, il avait 10 mois.
Il avait 10 mois, ouais.
Il a eu 11 mois quand?
Il a eu 11 mois le 11 mai.
Ah, joyeux mois anniversaire, on peut dire.
Merci. Là, j'essaie de lutter pour pas qu'il prenne le micro.
Alors Audrey, parle-nous un peu de toi.
Moi je suis Audrey danseuse. Professionnelle. Tout a commencé par ma relation, tout simplement, et une envie d'enfant. Donc, avec mon mari, ça fait... là, maintenant, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Mais à l'époque, ça faisait 7 ans. Et on avait vraiment l'envie d'avoir un enfant. Donc, on s'est dit, let's go, c'est le moment. Voilà, donc c'était vraiment... Moi, j'étais complètement danseuse en full time. Et donc, je me suis dit, je sais que la grossesse, va falloir que... c'est le corps qui prend, hein, donc du coup, il fallait falloir faire une pause. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire autre chose. Pardon.
Alors si ta voix s'éloigne du micro, c'est parce qu'il y a Kidjani qui éloigne le micro. Il veut pas que tu parles dans le micro,
Il veut pas que je témoigne.
Il accepte pas.
Ok, donc du coup...
Vie d'artiste.
Oui, vie d'artiste. Et on a décidé en fait d'avoir un enfant, donc tout était calculé, vraiment. Et donc du coup, c'était en 2019. 4 mois plus tard, j'étais enceinte. Donc c'était vraiment rapidité, efficacité, et on était trop contents en fait d'avoir notre enfant et que je sois enceinte. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Déjà dès la grossesse, j'avais des fibromes. Donc les fibromes c'est bénin en vrai, mais c'est des espèces de petits kystes qu'on a dans l'utérus. Et moi ça arrive beaucoup aux personnes noires en général. Et j'en avais 4, donc c'était compliqué. Et j'en avais un qui était, ça je l'ai appris au fur et à mesure, mais j'en avais un qui était au niveau du col de l'utérus. Et donc du coup, ce qui voulait dire que je pouvais pas, moi je voulais faire un accouchement à voix basse, ouais. Et en plus physiologique, enfin sans péridurale, sans rien. Et donc du coup, ça a tué tout mon programme en fait. Voilà, ça a commencé par... en fait, c'est pas si simple, c'est pas aussi déjà beau qu'on le pense, en fait. Déjà, moi, j'ai des fibromes, alors je sais pas, moi, la plupart des femmes, ça va. Enfin, c'est ce que je me suis dit, déjà, de base.
Les fibromes, tu l'avais entendu avant ta grossesse ou c'est à ce moment-là que tu l'as appris?
Je l'ai entendu après. En fait, c'est quelque chose dont je n'étais pas du tout consciente. Mais après, ça expliquait beaucoup de choses aussi. Ça expliquait souvent mon ventre ballonné. Enfin, en fait, ça expliquait beaucoup de choses. Parce que j'en ai toujours eu, en fait. Donc voilà, mais ça, je l'ai vraiment pris, j'ai pris connaissance de ça quand j'étais enceinte. Et ça arrive beaucoup, en fait. Ça arrive beaucoup. Et en fait, ce qui se passe quand tu as des fibromes, c'est que à un moment donné, pendant ta grossesse, ils se nécrobiosent, donc, c'est-à-dire qu'ils rétrécissent. Et en rétrécissant, bah, du coup, ils font très, très mal. Et c'était atroce. Et donc, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû être hospitalisée. Et puis, on m'avait mis plein de médocs pour que la douleur passe. Et donc là, le premier souci, c'est que, bah, en fait, mon compagnon, il n'était pas là. Il était en déplacement professionnel. Et moi, j'étais censée avoir une date. Et bah, c'était
au
Maroc, ouais. Et c'est le premier truc qui a sauté, quoi, en fait, direct. Et ça a été, ah, bah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, je peux pas aller au Maroc. Bon, lui, c'est cool parce que ça l'empêche pas d'aller à son truc. Mais voilà. Ah, moi, c'est bizarre. C'est dommage, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais je me suis dit, bon, c'est pour le bien-être de l'enfant et de moi. Donc, voilà, donc, je peux pas y aller, c'est normal. Enfin, voilà.
Hospitalisation, plan au Maroc qui tombe à l'eau. Et à 3 mois, il y a une consultation. Tu y vas avec ta mère.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon compagnon, il a eu beaucoup de déplacements professionnels. Et comme moi, c'était pas une grossesse facile, j'étais un peu chez mes parents. Donc je suis restée un peu chez mes parents. Et c'est ma mère qui m'accompagnait pour tout ce qui était visite médicale et échographie. Et ce jour-là, j'étais chez mon gynécologue et bah, il m'ausculte, tout simplement. Et en fait, il me dit « Ah, bon, moi, bien évidemment, je filme parce que j'ai envie que mon compagnon puisse assister à ça. » Et au moment où on voit à l'écran, en fait, il me dit « Ah, bah, je vois pas l'embryon, enfin, pas l'embryon, mais le fœtus, quoi. » Il me dit « Il bouge pas, c'est bizarre. » Et donc, je commence à un peu flipper, tout simplement. Et je me rends compte, en fait, que bah, il cherche partout avec son... Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Le truc pour faire l'échographie, quoi.
Oui,
qui
ça.
Roule sur ton ventre, du coup.
Pas celui-là, celui qu'on met à l'intérieur.
Ah oui, d'accord.
Oui, l'autre. Okay. Celui qui n'est pas du tout agréable.
Ouais.
Et donc, du coup, il cherche. Et puis, il me dit, ah, il est en dessous. Il a été enfoui sous les fibromes. Et en fait, il m'a mis des gros coups. Enfin, c'est pas très... mais c'est un peu une agression, en vrai. Il m'a mis des gros coups pour pouvoir remonter et faire bouger le fœtus. Et donc, moi, j'ai filmé tout ça. Hein. C'est un truc que j'ai... je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai continué à filmer. Je sais pas. Et en fait, il se passait que des mauvais trucs, en fait. J'avais que des trucs comme ça. Et ça a été désagréable pour moi, en tout cas. Et j'en voulais beaucoup à ma mère, alors que... Elle m'aidait, en fait, elle était là pour moi.
Ouais.
Et en fait, en vrai, je crois que je lui en voulais, mais en vrai, c'est plus à mon compagnon que j'en voulais. Parce qu'il n'était pas là à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et quand il était là, bah, c'était toujours top. Enfin, j'allais toujours bien. Donc, il y avait un peu un truc où je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas cool, en fait, pour moi. À chaque fois, je vis des choses et puis, bah, lui, tout se passe bien. Enfin, c'était un peu, je sais pas si c'est normal, mais dans ma tête, je me disais que ça se fait pas, quoi. C'est pas de sa faute, mais bon. Voilà, ça a joué, c'est sûr, sur mon état d'esprit, sur ma façon de penser après, quoi.
À ce moment-là, il a mis des gros coups, comme tu disais. Il t'avait prévenu avant?
Non,
ou...
non. Bah, avec le recul, sur le coup, nous, on a peur. On se dit, ouais, c'est... Il a sauvé, entre guillemets, le bébé.
Parce que c'était pourquoi, justement, qu'il
bah,
faisait ça?
Il me disait que c'était pour... Enfin, à l'époque, quand il me l'avait fait, c'était tout simplement pour remonter le fœtus. Qui était enfoui sous les fibromes.
D'accord.
Donc voilà, donc ça c'est
du coup, les fibromes n'étaient pas encore résorbés
non,
à ce moment-là.
Non, pas encore. Et donc du coup, bah voilà, et bah grâce à ces coups, bah en fait le fœtus est remonté. Enfin, je sais pas si on dit fœtus ou je sais pas. Mais en tout cas, CG, il est remonté et voilà, il m'a dit ouais, c'est bon, tout va bien. Voilà, il m'a dit « Ah, je comprends pas ce qui s'est passé ». Voilà, bon.
Et 5 mois après, du coup, ta mère en a marre.
Oui, parce qu'en fait, c'est là que j'ai appris que j'avais un fibrome Previa, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, je suis allée donc voir un autre gynéco et elle était avec moi. Et c'est là que le gynéco me dit... vous avez un fibrome qui bouche le col, en fait, donc votre enfant ne pourra pas sortir par voie basse. Et donc, du coup, il faudra faire une césarienne. Mais vous avez aussi des fibromes qui sont au niveau de l'incision de la césarienne. Donc, en gros, résultat, il faut changer d'hôpital, il faut prendre un hôpital catégorie 3 pour pouvoir, si jamais il y a une transfusion, un truc, vous êtes bien pris en charge direct. Et puis, et là, moi, j'ai pété un câble en sortant de cette consultation. Et j'ai dit complètement... ma pauvre maman, pardon. En tout cas, je m'excuse vraiment. Pardonne-moi. Je lui ai dit mais tu me portes la poisse. Enfin, vraiment, j'avais des mots très durs. Donc là, je vais pas les dire, mais c'était vraiment très très dur. Et donc du coup, elle a pété un câble et elle m'a dit tu sais quoi, débrouille-toi toute seule. Voilà.
Ah, j'avais pas cette phase-là. Quand j'ai dit ta mère en avait marre, c'était du gynéco en fait. Je parlais.
Ah non,
mais du coup, vous avez changé de gynéco.
Oui, oui, pardon. Oui, mais elle en a eu marre de moi aussi à un moment donné. Okay. Même si je suis enceinte, à un moment donné, il y a des limites. Enfin, voilà.
Fanny, je me tourne vers toi. Après, on reviendra sur ta grossesse et sur la suite hein, pour parler concrètement de la dépression postpartum. Du coup, Audrey dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle s'énervait contre sa maman, mais en vrai, elle en voulait à son mari de pas vivre les mêmes choses qu'elle. Est-ce que c'est courant?
Oui, c'est très courant, ça s'appelle d'ailleurs le déplacement. Et c'est quand bien souvent dans des situations émotionnelles où on n'a pas encore identifié ce qu'on ressent vraiment et où on ne s'autorise pas vraiment, pour une raison ou une autre, à en vouloir à la vraie personne cible, eh bien on déplace sur une personne qui est peut-être plus accessible ou à qui on peut peut-être mieux ou à cet instant-là faire ce type de reproche. Mais dans une situation comme tu le racontes, où finalement, effectivement, en tant que femme, on vit des choses très différentes que l'homme avec qui on a conçu un enfant. Ça arrive aussi très souvent qu'on se sente, on commence cette aventure à deux, et sur le chemin, le père en devenir et la mère en devenir vivent des choses tellement radicalement différentes que parfois ça crée de l'incompréhension et puis ça peut créer des ressentiments ou même de la colère. Et les pères, malheureusement, n'y sont pour rien. C'est vrai que l'aventure que vit la femme dans son corps est complètement différente que le père qui vit beaucoup de changements en lui, psychiquement, mais pas concrètement dans son corps à lui.
Du coup, ce déplacement est inconscient?
Oui, c'est inconscient. Et parfois, ça peut être à fleur de conscience. C'est-à-dire, parfois, c'est inconscient, je pense, comme dans le témoignage que tu nous as raconté. Et puis, parfois, ça peut être tout simplement parce qu'effectivement, on assume, on sait qu'on en veut, par exemple, à l'homme, notre conjoint, notre mari avec qui on a conçu l'enfant. Et on a tellement conscience qu'on n'a pas de raison de lui en vouloir que c'est trop difficile finalement de lui dire vraiment les choses. C'est même culpabilisant, c'est même gênant pour soi. Donc on s'en prend aux plus proches qui peuvent entendre cette espèce d'appel au secours. Parce que parfois, quand on en veut à quelqu'un ou quand on lui fait des reproches, c'est des appels au secours. Et puis bien souvent, comme les mamans sont des personnages phares de nos vies toujours présentes, ça tombe bien souvent sur les mamans. Et en devenant maman nous-mêmes, peut-être qu'on vivra ça aussi quand nos enfants donneront la vie.
Et toi, en tant que psy, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour faire face à ce déplacement?
Moi, je conseille deux choses. D'un point de vue... Alors, le déplacement n'est pas si grave, tu vois, parce que si sa maman a pu l'entendre, je pense que ta maman étant mère, elle a dû elle-même passer par là. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont dans l'entourage des femmes enceintes doivent savoir qu'il y a aussi les activités hormonales qui sont différentes. On ressent les choses différemment. La femme enceinte a quand même une sensibilité différente. Quand on le vit et l'ayant vécu, on le sait, on n'est plus du tout à même de maîtriser ses émotions de la même manière. Mais je conseille deux choses par rapport aux émotions négatives, difficiles ou délicates qu'on ressent quand on est enceinte. Je conseille d'un point de vue singulier déjà que les femmes qui sont enceintes s'attendent à ressentir des émotions qui ne sont pas forcément habituelles, mais aussi qu'elles communiquent, qu'elles verbalisent leurs désirs, qu'elles verbalisent leurs besoins. Et puis dans cette aventure, surtout quand c'est notre premier enfant, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de ne pas s'habituer à ce qu'on a cru normal de génération en génération de femmes. Parce que bien souvent, justement, c'est vrai, on s'est habitué à se dire c'est normal de souffrir dans son corps quand on donne la vie, c'est normal quand on va chez le gynéco d'avoir certaines douleurs, c'est normal, c'est normal, c'est normal. En fait, c'est pas si normal que ça, parce qu'il y a des gynécologues avec qui ça peut se passer différemment, parce que ne serait-ce qu'avoir un gynécologue qui explique ce qui va se passer change tout, parce que ça donne à la femme une sensation de contrôle qui va déjà avoir un impact sur la douleur. Donc je dirais vraiment aux femmes de prendre quand même le contrôle dans leur grossesse pour ne pas se sentir constamment impuissante. et je dirais à la collectivité de toute cette société qui porte en son sein des femmes enceintes, qu'il faut vraiment qu'on communique mieux pour toutes les mères en devenir. Parce que c'est vrai que quand on tombe dans le chaudron de la grossesse, mais on n'est pas du tout préparé. Moi-même, tout ce que j'ai vécu, c'était un monde mystérieux. Je ne m'attendais pas non plus du tout à tout ce que j'ai pu rencontrer dans mon chemin de mère. Et j'entends beaucoup de femmes dans mon cabinet qui ont été presque, on va dire, choquées parce que c'est vraiment que porter la vie. Oui, il y a le merveilleux. Oui, il y a le beau. Tout au long de ce chemin, c'est vrai que c'est incroyablement beau. Et je pense qu'aucune femme ne donnerait sa place à un homme parce que c'est très puissant et ça te connecte à quelque chose de profondément sensé quand on est croyant, de profondément divin. Mais cela dit, il y a toute la part d'ombre. Et cette part d'ombre, on en parle tellement peu que ça donne des femmes qui après se sentent coupables, différentes, ont l'impression qu'elles n'y arrivent pas, que c'est elles le problème, alors que tout simplement, c'est difficile. Porter la vie, c'est difficile. Être mère, c'est difficile. Et peut-être que si on apprend aux femmes justement à vivre ça avec une forme de conscience, ça deviendra plus facile, ce chemin-là.
Merci, Fanny. Je me retourne vers toi, Audrey. Du coup, là, tu vis pas trop bien ta grossesse. T'as un problème de charge que ton mari n'a pas. Tu t'en prends à ta maman. Mais 7 mois plus tard, ton mari est là pour l'examen d'écho. Comment ça se passe ?
Eh ben, c'est génial. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, c'est génial. Et en fait, donc c'était chez une échographiste, je sais pas comment on dit. Elle est spécialisée dans les fibromes, etc. Elle me dit. Madame, c'est génial, les fibromes au cours de la grossesse se sont... ça arrive, ils se sont écartés, en fait, avec la grossesse, pour laisser place au bébé. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire mon accouchement par voie basse.
Bonne nouvelle.
C'est merveilleux. Voilà, donc génial. Donc, mais un peu stressant, parce que je me suis préparée plus de la moitié de ma grossesse à faire une césarienne, et là, c'est reparti. Il faut que j'y pense, il faut que je me dise, ah oui, donc là, maintenant, c'est par voie basse, il faut que je me concentre, ok. Ok, j'ai peur et voilà. Donc j'ai dû me remettre dedans et voilà.
Et on arrive au confinement.
Confinement, ouais, 2020.
Ouais. Et c'est le moment d'accoucher.
Ouais, c'est le moment d'accoucher. C'est avril, mais le confinement c'était en mars, donc tout va bien. Je passe mes plus belles journées de ma vie confinée à regarder Game of Thrones parce que j'ai pas regardé Game of Thrones en temps et en heure. Et c'est que pendant le confinement que je regarde les 10 saisons. Il y a 10 saisons, je ne sais plus.
Je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé.
Et donc du coup, voilà. Et puis accouchement, génial. On prend notre temps. C'était un accouchement génial parce que du coup, Covid, les papas ne sont pas acceptés à l'intérieur. Donc voilà, sauf qu'une superbe sage-femme voit sur le dossier qu'on est danseur. Et donc elle dit, bon, comme vous voulez, moi j'arrive à 2 doigts. Donc voilà, j'ai encore du temps. Donc, et comme je ne vous mets pas en salle d'accouchement, vous pouvez aller sur le parking et puis vous marchez avec votre mari. Voilà. Et puis elle revient nous voir et elle me dit « Oui, j'ai vu sur votre dossier que vous êtes tous les deux danseurs. Bon, il n'y a personne. Est-ce que ça vous dit de rentrer, je ne sais pas, de nous faire danser ?» Donc, génialissime. Nous, on dit oui, direct, en fait, parce que moi, j'ai rien d'autre à faire, en fait. Il faut que bébé descende. Donc, on y retourne, on y va et on commence à... Il commence plutôt, lui, à faire un espèce de cours. Mais c'est vraiment génial quand j'y repense. Et moi, entre deux contractions, je vais sur le côté. Attends, 2 secondes. C'est bon, c'est reparti. Mais c'était ouf, en fait, cet accouchement. Et puis après, elle m'installe dans la salle. Donc d'abord, j'ai pris un bain qui m'a fait du bien. Et puis direct, salle de naissance avec de la musique comme on aime. Et puis un petit bébé qui arrive à 4h du matin. C'est dit.
Voilà. Alors, tout ça, accouchement qui se passe
génial.
Super bien,
ouais.
Jusqu'au moment où c'est le confinement et on dit à ton mari qu'il doit partir.
Il doit partir où ?
Qu'il doit sortir de l'hôpital. Du coup.
Ah oui, en fait, il reste 2 heures. Il reste 2 heures avec, dans la salle de naissance. Et puis, ouais, il doit partir, tout simplement. Et donc, je me retrouve toute seule. Et lui, c'est un peu. C'est un peu ma vie, un peu. C'est aussi ma vie, mon mari. Donc du coup, je me retrouve toute seule avec cette petite beauté. Ok, cool. Je vais voir ce qui va se passer. Enfin, je suis maman, quoi. J'arrête pas de me dire ça. Je suis maman. Enfin, maman. Je suis maman. Genre, c'est mon fils. C'était ouf. J'arrive dans la salle. J'arrive dans ma chambre. Donc du coup, j'avais pas le droit à une chambre. Seule, parce que c'était réservé aux femmes qui avaient le Covid, les femmes enceintes au Covid. Et donc, j'étais avec une autre dame qui avait accouché la veille. Son bébé était merveilleusement calme, tout calme, tout paisible. Et moi, je suis arrivée... Bon, au début, il était calme, mon bébé aussi. Mais il a commencé à pleurer. Et donc, du coup, il n'arrêtait pas de réveiller l'autre enfant. Donc, je culpabilisais à chaque fois. Parce que du coup, il criait, il hurlait. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Je suis perdue, en fait. Je ne sais pas. J'essaie de le calmer un peu.
Mais t'es seule.
Et je me sens seule aussi, et je suis seule. Mais voilà, je me souviens avoir appelé l'auxiliaire de puériculture, mais plusieurs fois, parce que j'étais... perdue, parce que moi je voulais allaiter, et au début il y a le colostrum, et donc on n'a pas tout de suite du lait, en fait, sauf que je ne savais pas, je pensais que direct, en fait, il y avait du lait, et donc du coup il avait faim, il avait soif, et je comprenais pas, donc j'avais appelé l'auxiliaire et plusieurs fois en disant mais il pleure, et donc du coup moi j'étais complètement perdue, je suis désolée, j'étais désolée en fait de l'appeler et de la solliciter pour mais parce que je sais pas pourquoi il pleure et je comprends pas, et donc du coup elle me dit mais il a juste faim, je vais lui donner un biberon, et puis elle lui a donné un biberon et puis c'est calmé, sauf que c'était un enfant qui pleurait beaucoup, mais c'est comme ça, c'est un enfant, c'est un bébé en fait. Donc voilà, pour le bain, c'est pareil, je ne savais pas lui donner le bain, j'avais peur, enfin voilà. Et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une auxiliaire qui soit vraiment attentive et qui a vu que j'étais vraiment en train de craquer, déjà, dès la maternité, je craquais. Et en fait, elle m'a dit, mais attendez, je vais vous expliquer. Et en fait, c'est comme si elle m'avait pris la main, en fait. Et ça m'a fait du bien, parce que je me sentais vraiment perdue.
Et d'ailleurs, devant cette auxiliaire, t'as craqué, ça t'a...
Complètement.
Ça t'a délivré un peu.
Complètement, j'ai craqué et en fait elle était un peu rude, et au final elle s'est radoucie quand elle a vu que j'étais vraiment au bout, en fait. Moi, je culpabilisais de réveiller l'autre enfant, je culpabilisais de pas savoir moi-même m'en occuper, en fait. Dans ma tête, je me suis dit ça y est, je suis mère maintenant, je dois savoir, en fait. C'est pour moi, c'était
c'est
comme
ça,
si
je dois savoir,
et alors que non, en fait, ça s'apprend, c'est pas inné comme on pense, en fait. Ouais. Et donc du coup et j'étais complètement perdue, totalement.
Et à ce moment-là, il y a aussi, tu te regardes dans la glace et tu
merci
te
de rappeler
pas
ça.
Trop.
Merci beaucoup de rappeler ça. Oui, c'est vrai. Alors déjà, c'est pas très glamour, si, c'est ça. Mais c'est pas très glamour de le dire, mais je vais le dire, c'est pas grave. C'est la vie, en vrai. C'est parce que ça fait très mal de faire pipi. Ou même d'aller à la selle. Et il faut y aller malgré tout. Hein. Il faut leur dire aussi quand tu as été à la selle. Ça y est, je suis allée à la selle. Donc ok, tout va bien parce que j'ai eu une petite épisiotomie. Donc voilà. Et donc du coup, je me souviens de cet instant-là où je me regarde dans les toilettes, enfin la salle de bain de l'hôpital. Et en fait, je regarde mon corps et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, je vois mon ventre. Qui était magnifique, parce que quand il y a le bébé à l'intérieur, c'est waouh, t'es magnifique. Et puis et là, je vois mon ventre, en fait, où en fait il y a une grosse, il est toujours aussi gros, sauf qu'il y a plus rien dedans, et il est tout flasque, tout très sombre, très noir au centre, enfin tout difforme. Et donc du coup, je me dis mais merde, c'est quoi ça, c'est quoi, je voilà.
Tu te reconnais pas du coup.
Je me reconnais pas, non. Et je ne savais pas ça, moi. Enfin, j'ai l'impression d'être... Je ne sais pas si c'était la fille qui était dans le monde des bisounours. Mmh. Mais en fait, tout ça, là, je me dis, mais c'est des coups de massue, en fait, que je reçois. Et je ne savais pas que le corps était comme ça, à ce point. Je ne savais pas, déjà, la selle, je ne savais pas l'épisiotomie, je ne savais pas l'allaitement. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs où je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Le seul truc que je savais, c'était que ça fait super mal d'accoucher. Comme ouais. Dans les films, quoi, tu vois. Ça fait super mal. Et le reste, je vois pas. Je savais pas.
Fanny, je vais me retourner vers toi. Là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Le rapport à son corps, la non-connaissance aussi de tout ce qui se passe, de l'épisiotomie,
ouais.
De l'accouchement, comment il va se passer, comment on s'occupe du bébé après, le lait, est-ce qu'il sort tout de suite, est-ce qu'il sort pas, qu'est-ce qu'on doit... Et à ce moment-là, comment on peut faire face à tout ça ? C'est une sacrée question.
Oui, c'est une sacrée question parce que ça... Faire face à tout ça. Déjà conscientiser ce qu'on est en train de vivre Et on est tellement dans des émotions paradoxales, le merveilleux d'avoir donné la vie, le merveilleux de découvrir le visage de son enfant, le merveilleux d'avoir réussi, d'être dans l'après, et puis le particulier, effectivement, de retrouver un corps si différent, de devoir s'habituer tout en se disant, parce que la plupart des femmes se disent qu'elles vont travailler sur leur corps et puis qu'elles vont retrouver leur corps. Et puis je dis à toutes les femmes qui nous écoutent, on retrouve bien son corps avec de l'effort. Mais
avec de l'effort, oui.
après ça, tout demande de l'effort. Mais bon, après avoir accouché, qu'est-ce qui n'est pas possible pour une femme ? Donc, faire face à tout ça, c'est, je pense qu'il faut avoir un plan quand même en tête. Et c'est difficile parce que je pense qu'il n'y a pas une vraie transmission de femme en femme de ce qui se passe vraiment quand on accouche. Ouais. Peut-être parce que ça fait tellement peur que même moi, je ne suis pas sûre que je dirais à ma fille « Quand tu vas accoucher, quand tu te regardes dans le miroir, je pense que je lui dirais... j'essaierai de la préparer sans lui dire vraiment ce qu'elle va vivre. » Même moi, je pense que je ne dirais pas ça de cette manière-là. Donc peut-être qu'il faut, il faut préparer les femmes à avoir un plan en tête, c'est-à-dire comment ça va se passer, ce qu'elles ont envie de vivre le lendemain de leur accouchement ou les heures d'après, qu'elles aient une forme de décision qui les suive tout au long du chemin. Et même par rapport au corps, si tu sais que c'est quelques instants que tu vas ressentir ça, si tu sais que tu peux ressentir du vide, que tu peux, t'as ressenti le plein de ton bébé en toi, et que tu peux ressentir du vide, par exemple, tu vas déjà moins être sidéré parce que tu ressens vraiment dans ces moments-là. De même, moi je me souviens à mon accouchement à moi, donc je suis psychologue mais je suis aussi femme, que dans mon premier accouchement et maman, j'ai été traumatisée, bon, mon trauma est vite passé, j'ai aussi eu une petite épisiotomie, sauf qu'on ne m'a pas prévenue et que j'avais cette femme d'un certain âge, je me rappelle avoir regardé, elle était avec des grands ciseaux au-dessus de moi. Oh. Et cette image-là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible ce qu'on vit nous dans notre chair. Et puis finalement, ça a eu lieu, après voilà, moi j'ai été recousue, tout s'est bien passé. Mais je pense que si j'avais su plus profondément ce que c'est exactement que l'épisiotomie, comment ça se répare, comment ça se guérit. Si moi, j'avais pu savoir déjà tout le processus de guérison qui est rapide, ça m'aurait déjà fait moins peur que cette image un peu traumatique de cette femme sur mon corps auquel j'ai...
Un peu imaginé.
Voilà, auquel j'ai plus du tout accès. Donc, pour moi, c'est vraiment la question du savoir. À toutes les femmes qui nous écoutent, donnez-vous le plus possible de savoir, et pas que le savoir, effectivement, du côté du merveilleux, aussi le savoir factuel, je dirais, factuel du corps qui se répare, du temps que ça prend. De même, le postpartum, c'est la période, c'est les 6 semaines après l'accouchement, qu'on ait une dépression ou non, en tout cas, on aura des émotions fortes. En tout cas, vous ne pourrez pas gérer vos émotions de la même manière que lorsque vous êtes, entre guillemets, tout à fait vous-même. Donc, il faut le savoir aussi. Souvent, les femmes qui viennent me consulter à ce moment-là sont saisies par toutes les émotions qu'elles peuvent ressentir, ces pleurs qui peuvent advenir alors qu'elles sont profondément heureuses. Et là aussi, rien de bizarre à ça. C'est tout à fait normal. Donc, il faut s'habituer à ce qu'il y ait beaucoup de choses qu'on aurait trouvées tout à fait anormales dans d'autres périodes, mais au moment où vous avez accouché, eh bien finalement, ça fait partie du chemin du devenir mère. Ça fait partie aussi du corps qui se répare. Les émotions, les larmes, se réhabituer à soi et aussi travailler pour arriver à ce que son corps redevienne finalement à soi. Parce que souvent, les femmes vont vous parler d'une impression que leur corps ne leur appartient plus. Et puis, quand on allait, là aussi, du coup, son corps est tout le temps, on va dire, là pour l'autre, pour soutenir, pour bercer, pour allaiter, pour nourrir. Et on finit par avoir l'impression que notre propre corps ne nous appartient plus. Donc, il y a aussi toute une période, et c'est différent pour chaque femme, où il faut trouver un moyen de se redonner son corps à soi. Alors, quand on est artiste, ça peut être par la danse. Pour d'autres, ça peut être de se mettre à un sport ou tout simplement prendre du temps pour soi. Mais tout ce qui avant allait de soi ne va pas forcément de soi. Et je dirais, c'est une note positive réelle, c'est pas utopique, c'est vrai. C'est tant mieux, parce que c'est bien dans sa vie de réaliser qu'il y a certaines choses qu'on prenait pour acquis et qui finalement sont de l'ordre du merveilleux. Par exemple, le moment où les enfants deviennent un peu autonomes et qu'on peut justement reprendre ses activités ou faire des choses pour soi, c'est un côté bien plus merveilleux qu'avant, où avant on était tranquillement... Par exemple, moi avant j'écrivais tranquillement mes livres, Aujourd'hui, le temps que j'ai pour écrire, je me dis, mais c'est merveilleux. Encore plus merveilleux quand je sais que mes enfants vont bien. Donc en fait, ça donne aussi une couture à la vie beaucoup plus... merveilleuse de le savoir. Donc, cette prise de conscience que ce qu'on faisait avant naturellement aujourd'hui demande un peu d'effort, pour moi, apporte quand même aussi un côté essentiel dans son rapport à la vie.
Merci Fanny. Audrey, l'accouchement est fini. Tu sors de l'hôpital, c'est encore le confinement, du coup, là
C'est
tout va
génial.
bien, c'est
Bah
la plus belle vie et tout.
oui. Bah oui, on apprend à trois à vivre en fait. Enfin, c'est génial, c'est tout. Enfin, moi j'ai adoré, désolé pour ceux qui n'ont pas kiffé, mais moi le confinement c'était vraiment une super belle période en fait de ma vie. Et voilà, en fait c'est comme si tout était sur pause en fait, tout était sur pause en vrai. Et en fait, on était dans notre bulle.
Et on arrive en juillet, où c'est le retour au travail.
Oui, donc clairement, c'était génial. Et puis là, juillet, bah, c'est reparti, il reprend le travail et il se retrouve directement, bah, plus à la maison, quoi. Et comme c'était la période estivale, donc du coup, c'était un festival qui a des horaires un peu très tôt même et très tard. Donc du coup, ce qui fait que en fait très vite, il part de la maison, il va travailler, et il rentre tard. Donc moi, je me retrouve toute la journée avec un petit bébé qui pleure beaucoup. Et puis je vais, enfin vraiment après là je le dis, ça me fait un pincement au cœur pour lui parce que je l'aime énormément mon fils, hein, je l'adore quoi, c'est mon fils. Mais j'étais saoulée en fait d'être à la maison et d'être avec lui. Vraiment, j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'être J'avais envie de retourner à ma vie. Je comprenais pas en fait. Il pleure tout le temps. Enfin voilà, voilà, il avait. Enfin, il pleure tout le temps. Non, il dormait parce qu'il était encore petit. Mais voilà, j'arrivais pas moi. Je me sentais plus. J'avais le temps de rien. Voilà, j'avais plus le temps pour moi, en tout cas.
Et quand ton mari rentrait, du coup, il partait genre vers 10 h du matin, il revenait le soir vers 21 h. Et quand il rentrait, tu te déchargeais sur lui.
Oui, je le laissais l'enfant. C'était comme si, tiens, prends l'enfant, c'est bon. Enfin, lui, en vrai, il était. En vrai, c'est une grosse journée pour lui parce qu'il va travailler et puis il rentre et direct. Enfin, c'est encore du boulot, hein, parce qu'avoir un enfant, c'est du boulot. Et en fait, moi, enfin, je dis pas que je culpabilise aujourd'hui d'avoir fait ça, mais pour moi, c'était ma seule manière de me laisser. En fait, c'était de lui laisser l'enfant et de. C'est lui qui gère, quoi. C'est bon, je m'en suis occupée toute la journée, tiens.
Et je peux te citer. Tu m'as dit, je voulais plus être enceinte. J'aimais pas mon enfant. Il avait détruit mon couple et changé ma vie.
Non, oui, j'avais plus du tout envie d'enfant, en fait. J'ai envie de retourner à ma vie, en fait, d'avant. De Audrey, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes, on est égoïste, hein. Toute notre vie, on est égoïste. C'est ça, je le dis tout le temps parce que c'est vrai. On pense à notre vie, à nous. Moi, j'ai loupé énormément de choses. J'ai loupé le mariage de mon meilleur ami. Enfin, ça, pour moi, c'est grave parce que j'avais une date en Pologne. Donc, du coup, j'ai loupé son mariage. Non, mais en vrai, c'est toute ma vie. J'ai loupé énormément d'anniversaires, de famille, de rendez-vous. Parce que, en fait, désolé, je suis en spectacle. Et en fait, là, avoir un enfant. Et un petit bébé, ça engendrait autre chose. Ça engendrait, bah, en fait, là, maintenant, il faut que je réfléchisse ma vie différemment. Maintenant, c'est plus moi d'abord. C'est avec bébé d'abord. C'est bébé d'abord. Ça a été très dur de l'entendre, en fait, et de me rendre compte que bah, c'était que moi qui étais touchée par ça. Parce que mon compagnon, lui, il continuait sa vie de danseur. Donc, voilà.
Je veux revenir sur les mots que j'ai cités, du coup, et je me tourne vers toi, Fanny. Est-ce que c'est pas un peu commun d'avoir ce genre de sentiment, d'être un peu on se retrouve seul, on est un peu délaissé, on regrette, on a envie de tout arrêter, quoi.
Oui, et c'est commun et c'est temporaire. Et chaque femme aura sa manière de le vivre. Enfin, alors pour certains, pas du tout. Je pense que pour certaines, bah, ça va être tout de suite une forme d'harmonie qui se crée. Mais c'est pas la norme quand même. Parce que la plupart des femmes, ça va prendre un certain temps à pouvoir se sentir vraiment maître de son espace, de son temps, se sentir assurée aussi dans sa manière de prendre soin de son enfant. Donc avoir ce genre de ressenti et de pensée. C'est tout à fait normal et quand on les ressent, il faut pas se culpabiliser, il faut se dire, je traverse une espèce de tempête émotionnelle qui n'est pas que psychique, qui est aussi physique, parce que les hormones jouent profondément dans ce qu'on ressent, dans cette étape-là. Et donc là aussi, prendre le temps de vraiment se demander de quoi on aurait besoin. Par exemple, oui, c'est compliqué pour les papas s'ils ont travaillé toute la journée de devoir gérer l'enfant quand il rentre, mais s'ils le peuvent, il faut qu'ils le fassent, parce que pour la jeune maman, c'est vraiment très difficile. de s'occuper de son enfant toute la journée, d'avoir aucun temps de repos. Et souvent, les personnes qui n'ont pas encore eu d'enfant ou les papas ne savent même pas à quel point même trouver le temps de prendre sa douche est difficile. Et puis certains vont aussi dire, bon, on peut laisser le bébé pleurer. Mais pour certaines femmes, c'est difficile de laisser son enfant pleurer, d'autant plus qu'aujourd'hui, certaines recherches tentent à dire que quand les enfants sont très très jeunes, les nourrissons, si on les laisse pleurer, ça peut faire des séquelles. Donc on recommande vraiment de ne pas laisser son enfant pleurer, ça c'est scientifique. Et donc bah, pour toutes les mamans qui ont envie de prendre leur douche, tant que l'enfant ne fait pas de sieste, ben, elles ont du mal. Et si l'enfant fait une sieste, ben, faut encore arriver à ce qu'il fasse une sieste pas sur soi. Et donc ça, même la douche devient un moment compliqué. Donc c'est pour ça que ça va être une période, et c'est une période très belle mais fatigante pour la mère et le père, et que donc si le père peut assumer le plus possible avant ou après le travail, c'est sûr que ça va aider la femme et la maman dans cette période-là. Moi j'ai notamment dans ma clientèle des histoires de vie où par exemple les pères vont se lever une heure plus tôt et avant leur travail, deux heures plus tôt avant l'heure où ils se lèveraient, pour pouvoir prendre totalement en charge l'enfant et que la mère soit sûre d'avoir eu un vrai temps de sommeil. Parce que aussi quand on allaite, on est quand même tributaire ben, de quand l'enfant veut allaiter. Et là aussi, ça fait qu'on finit par ne plus du tout dormir ou dormir de manière très saccadée. Ça joue sur les hormones, ça joue sur les émotions, ça joue sur l'irritabilité. Et toutes ces émotions-là jouent aussi sur le couple. Et là aussi, on n'est pas du tout préparé à la question du couple après avoir eu son enfant. Et donc, je pense que ça crée aussi une espèce d'épine en plus quand on est dans une période de dépression postpartum, parce que si on s'est beaucoup appuyé dans une relation un peu fusionnelle avec son copain, avec son mari, avec son conjoint, tout d'un coup, on est trois, et avec peu de temps pour discuter, pour fusionner, pour vivre tout ce qu'on vivait avant avec son mari. Et donc, ça rajoute un élément compliqué à prendre en compte. En fait, c'est une espèce de tempête, mais c'est une tempête si on tient bon. Après, là où on en ressort, c'est encore plus beau que là où on était. Mais il faut trouver un moyen de naviguer dans ces espaces où tout est mystérieux et tout est très différent.
Merci Fanny pour ces mots qui permettent un peu de démystifier aussi ces pensées que les femmes pourraient avoir, et parce que souvent elles s'en veulent du coup d'avoir ces pensées.
Ah oui, totalement. Moi j'avais honte de le dire. J'avais honte de penser ça et de dire ouvertement que j'avais plus envie d'enfant. J'avais honte de ça en fait. J'avais peur.
Et je voudrais même préciser, quand je t'entends formuler ça, que en fait, dites-vous bien que ça arrive vraiment à une femme sur deux. Alors, ça peut se formuler comme ça, ou ça peut se formuler du côté de « je suis pas à la hauteur, j'aurais jamais dû faire un enfant », ou ça aurait pu être simplement regretter sa vie d'avant. Mais c'est banal de regretter sa vie d'avant. C'est un instant T, ça ne veut strictement rien dire. Quand il aura un an, deux ans, cinq ans, 18 ans, on pense déjà à autre chose. Et peut-être même que votre maman a pensé ça, et ça ne change rien à la force du lien qui unit un parent à son enfant. Donc quand vous ressentez ça, il faut vraiment banaliser le plus possible et se dire aussi que y a un temps à prendre pour se réhabituer à un espace. Tout comme quand vous êtes passé par l'adolescence, tout comme quand on passe à d'autres étapes d'une vie. C'est une étape d'une vie, c'est une transition. Et comme toute étape de transition, il y a des formes de petites crises, il faut s'habituer. Mais ces pensées-là, elles ne sont absolument pas définissantes. Elles ne disent rien de la maman, elles ne disent strictement rien de la relation qui est en train de se bâtir. Elles disent juste quelque chose d'une souffrance, d'un mal-être. Et c'est la souffrance et le mal-être qu'il faut savoir écouter pour pouvoir impacter. Et puis guérir potentiellement ce qui est en train de se passer en la maman.
Et tout à l'heure, tu parlais de la difficulté juste de prendre une douche. Et là, on peut le voir d'ailleurs avec Kidjani, c'est du temps plein. Quoi.
C'est du temps plein, ouais. Ça devrait être payé en fait.
Exactement. Et du coup, à ce moment-là, Audrey, il y a toujours un souci avec ton corps. Tu prenais encore plus de poids et tu voyais aussi autour de toi des cousines qui perdaient du poids alors qu'elles avaient eu des enfants aussi, c'est ça?
Tu balances. Oui, en fait, si
et t'as
tu veux...
des remarques aussi, du coup.
Ouais, en fait, si tu veux, moi j'ai pris 20 kilos donc, pour ma première grossesse. Et en fait, j'ai allaité. Et en fait, je me suis toujours dit, oui, quand je vais être enceinte, je veux pas qu'on me dise quoi que ce soit. Qu'on me dise, ouais, fais attention, machin. Donc, j'ai pas fait attention du tout. J'ai mangé, je me suis fait plaisir. Et en fait, on m'a toujours dit, oui, t'inquiète, surtout une cousine, Jessica, que j'adore, qui m'avait dit, mais tu verras, avec l'allaitement, tu vas perdre. parce que l'allaitement, elle a perdu, elle a fondu. Enfin, ouais. Il y a des femmes, en fait. Donc, moi, je pensais que j'étais ce genre de femme-là, mais en fait, non. Donc, moi, je prends plus parce que j'ai besoin, en fait, de plus manger. Ouais. J'ai tout le temps j'avais tout le temps faim, en fait. Et du coup, bah, j'ai pris du poids encore. Donc, à ce moment-là.
Et ça a aussi une répercussion sur ton métier ?
Bah, totalement, ouais. Donc, du coup, je voyais autour de moi que bah, y avait des mamans, les réseaux sociaux, c'est pas bon, hein, on est d'accord. Et donc, vous voyez qu'autour de moi, il y avait des mamans danseuses qui continuaient, qui avaient maigri, c'était génial. Et moi, je comprenais pas, en fait. J'étais toujours aussi grosse et je me sentais pas bien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le problème d'être grosse, c'est se sentir bien. Et je me sentais pas bien, en fait. J'étais pas heureuse, j'étais pas bien, j'en avais marre d'être avec mon enfant, enfin, rien n'allait. Et dans mon couple, ça n'allait pas non plus parce que du coup, j'étais toujours désagréable, j'étais toujours pas bien en fait. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien.
Et même à ce moment-là, tu vois qu'on t'appelle plus.
Ouais.
Pour des performances. T'en arrives à être jalouse, à te sentir inexistante.
Ouais, ça c'est vrai. Je me sentais pas bien, et puis même on m'avait contactée, et puis après il fallait remplir les mensurations, et puis après je dirais pas pourquoi, mais du coup on m'avait dit donc j'avais rempli mes nouvelles mensurations, et on m'avait dit finalement tu feras que figurante, alors que j'avais jamais, j'ai toujours bossé avec cette prod, et j'avais jamais été figurante, et donc du coup c'est juste ton ego aussi qui prend un coup en fait, et du coup j'arrivais pas à maigrir, j'arrivais à rien en fait, clairement, et rien n'allait.
À ce moment-là, on est d'accord, tu n'as pas d'avis médical ou quoi, tu vis la chose, tu as des mots encore, je peux te citer. Tu m'as dit, je ne sers plus à rien, j'avais plus envie d'être là, je voulais tout quitter, je faisais semblant, je ne pouvais pas le dire aux gens. T'avais une meilleure amie qui galérait et on disait, mais et toi, t'as tout, t'as pas à te plaindre. Et comment tu vis ça à ce moment-là ?
Bah, en fait, c'est vrai que en fait, j'ai une amie qui avait du mal à avoir un enfant, enfin, juste, et moi j'avais tout, c'est vrai, effectivement. Mmh. Et donc, j'ai pas à me plaindre en fait sur ça. J'ai pas à me dire que. En fait, c'est génial ma vie. Donc, en vrai, enfin, d'un point de vue extérieur,
ouais.
Ta vie, elle est géniale. Donc, pourquoi tu te plains ? Pourquoi. Et donc, du coup, je gardais en moi. En fait, j'ai jamais. Enfin, voilà, je sais pas. C'est encore présent dans le sens où ça m'émeut. Ça m'émeut de repenser à ça parce que, du coup, j'étais vraiment pas bien. J'avais envie de plus être là. Et je me disais que pour mon enfant, bah, ce serait même mieux que je sois pas là. En fait, que je disparaisse. Mmh. Parce qu'il sera mieux. Parce que grandir avec une mère qui était pas bien et qui n'avait pas envie de le garder, qui n'avait pas envie d'être là pour lui. Pourtant, je l'aimais, hein, c'est paradoxal. Hein, c'est vraiment, je l'ai aimé dès l'instant où je l'ai vu, en fait. Mais voilà, je sais pas, je l'aimais même dans mon ventre, mais c'est juste, j'avais plus envie d'être là, j'avais envie de disparaître. J'avais envie de mourir, si on le concrétise, clairement.
Et là, encore une fois, t'as pas d'avis médical, et tu connaissais pas encore la dépression postpartum, tu savais pas ce que c'était.
Non, non, non. Franchement, c'est venu très tard. Déjà, le mot postpartum ne me parlait pas. Donc oui, voilà. Enfin, je l'ai appris en cours de grossesse. Mais dépression postpartum, pour moi, non. C'était juste une phase. Je faisais une phase de dépression, mais j'étais juste pas bien. Sauf que là, j'étais vraiment au plus bas, quoi.
Alors là, Fanny, d'après le témoignage d'Audrey, du coup, elle n'avait pas de diagnostic. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était une dépression postpartum ?
Oui, aussitôt qu'il y a des pensées un peu suicidaires, on peut parler d'une dépression postpartum. En fait, la dépression postpartum, c'est quand dans cette période qui de toute façon sera émotionnelle et où de toute façon il y aura des remaniements émotionnels et hormonaux, donc les 6 semaines après l'accouchement, on commence à avoir des idées qui s'installent, qui sont des idées noires. À partir du moment où on constate ça chez une femme, on peut parler de la dépression postpartum. Mm.
Et c'est quoi la différence entre... Parce qu'on entend beaucoup parler du baby blues. On n'entend pas beaucoup parler du postpartum, mais on entend beaucoup parler du baby blues. C'est quoi la différence entre les deux ?
Bah, le baby blues, c'est une manière, on va dire, un peu vulgarisée de parler de la dépression postpartum, sauf que comme on l'utilise un peu pour tout, on peut parler du baby blues, même pour une maman qui aurait des angoisses ou qui ne se sentirait pas bien. On peut en parler Dès qu'une maman, ce qui arrive bah, là aussi plus d'une fois sur deux, va parler bah, de problématiques qu'on ressent dans cette période-là. Donc le baby blues, pour moi, c'est pas, quand on l'utilise, c'est pas aussi significatif et définissant que quand on parle de dépression postpartum. Parce que la dépression postpartum implique que la maman ait quand même besoin de se faire aider pour pouvoir sortir de cette, on va dire, cette mélancolie profonde ou cette difficulté à se remettre dans la vie. Alors moi, j'ai déjà vu des mamans qui y arrivent. C'est-à-dire, elles traversent une dépression postpartum et puis, par elles-mêmes, les choses reviennent, on va dire, à la normale. Mais ce n'est pas courant. De manière générale, quand même, quand on traverse cette période, c'est bien de se faire aider, d'en prendre conscience. Là aussi, d'arriver à se détacher un peu de ses propres pensées. Parce que dans cette forme de dépression, ce qu'il y a d'assez terrible à vivre, c'est qu'en même temps qu'on est responsable d'un petit être qui vient d'arriver, au moment où on aurait le plus besoin de compter sur soi, on a l'impression qu'on n'arrive à rien. Et donc finalement, on se culpabilise profondément et ça ajoute encore à cette difficulté de s'en sortir puisqu'on a l'impression qu'on n'est pas capable ni de s'occuper de son enfant, ni de s'occuper de soi, ni de bien s'arrimer à la vie. Donc les pensées que Audrey racontait tout à l'heure, elles sont très courantes. En fait, elle disait, tu disais par exemple cette impression que t'aimes ton enfant, mais qu'il serait mieux sans toi. Et en fait, souvent, des mamans se sentent tellement pas à la hauteur de ce qu'elles se donnaient comme mission qu'elles ont l'impression que finalement, une autre femme aurait réussi ou que leur enfant, il a besoin de quelqu'un qui assure, elle n'assure pas. Et ça crée cette impression que finalement, on n'a pas de valeur. Donc toutes ces pensées-là viennent aussi d'une espèce de pression qu'on se met. Alors que là aussi, si en amont, on travaille déjà sur le fait, on accepte qu'on ne se sentira pas parfaite, on accepte qu'on ne pourra pas être parfaite, mais surtout on accepte que l'enfant, il n'a absolument pas besoin de perfection. L'enfant, le nourrisson, pour se construire, il a juste besoin de la présence, et même parfois de l'absence, parce que c'est comme ça que se construit l'autonomie de l'enfant, de son parent. Mais la perfection déjà n'existe pas, mais même si elle existait, elle n'amènerait pas à ce que l'enfant puisse se construire. Puisque l'enfant, c'est aussi dans les originalités de son parent qu'il va devenir lui. C'est dans ce que fait son parent un peu différemment, c'est dans les choses que nous, en tant qu'adultes, on aime raconter. Quand vous parlez de vos parents et que vous racontez justement les choses un peu différentes qui vous ont fait traverser. Et c'est exactement ça qui vous a fait grandir. Donc vos enfants, quand vous êtes différents, quand vous faites des choses que vous ne trouvez pas normales ou quand vous êtes la personne dont l'enfant a toujours une chaussette différente de l'autre ou ce genre de choses, c'est absolument pas grave en fait. Au contraire, il se structure dans cette différence qui le fait devenir. Donc il faut arriver à enlever de la pression aux mamans, surtout dans les débuts, pour qu'elles acceptent finalement de prendre le temps, de décider quelle mère elles ont envie de devenir et de surtout se détacher de cette espèce d'idée de perfection qui ne peut pas exister quand on devient mère et qui ne serait même pas saine.
Tu parles de différence et tout à l'heure Audrey parlait des réseaux sociaux. Et est-ce que la comparaison n'est pas le pire ennemi à ce moment-là?
Si. Et je pense que la seule bonne comparaison qui tient, c'est de se comparer à soi et rien qu'à soi. C'est-à-dire chaque jour, arriver à être mieux que ce qu'on a été la veille. Parce qu'aussitôt qu'on se compare aux autres, bah déjà l'autre, on l'imagine, donc on se trompe souvent. Et puis les réseaux sociaux, on le sait, même si ça peut aider dans la transmission du savoir ou dans les témoignages, ça donne aussi des espèces d'imageries fausses et fantasmatiques de certaines femmes qui vont se mettre en mots de manière extrêmement positive, alors que peut-être que quand elles coupent la caméra, elles pleurent. C'est vrai que, effectivement, on va dire, scientifiquement parlant, quand on allaite, la plupart des femmes perdent du poids, mais il y en a qui ne perdent pas de poids et elles y arriveront autrement. Moi, j'ai en tête l'histoire d'une femme qui avait pris 30 kilos et qui était très féminine avant sa grossesse. Elle est passée par plein d'étapes, ça a été dur. C'est pas l'allaitement qui lui a fait perdre son poids, au contraire. Mais après, avec l'effort, toujours l'effort qu'on aura tous besoin dans nos vies, bah, elle est redevenue elle-même. Donc là aussi, chaque femme doit se dire son chemin, sa différence, sa manière d'être, mais surtout, ayez en tête ce à quoi vous voulez devenir. Si vous n'avez pas de boussole, si vous ne savez pas vers où vous marchez, ça va être beaucoup plus dur le chemin. Quand on veut maigrir, parce que pour les femmes c'est important, là aussi il ne s'agit pas de superficialité. Quand on a eu le même poids toute sa vie et que tout d'un coup on se retrouve avec 20-30 kilos, mais même 5 kilos, ça peut jouer dans la manière de se sentir soi. Et décider de maigrir, c'est pas forcément se dire demain je dois maigrir, parce que ça ça serait utopique, mais avoir une idée de comment on prend en main son corps va aider aussi les femmes à traverser cette période où elles deviennent femmes et mères. Parce qu'à l'époque, la femme devenue mère était presque plus femme. elle était devenue mère et puis elle sortait de cette catégorie. Aujourd'hui, on a bien compris que la femme reste mère pour tout... Non, vous voyez mon lapsus. La mère reste femme pour toujours. Ouais. La mère reste femme pour toujours. Et donc, bah, il faut là aussi comprendre qu'en tant que femme, on a besoin de continuer à se sentir soi dans son corps. Et ça passe par bah, justement le regard qu'on porte sur soi, sur son poids et sur ce qu'on est en tant que mère, mais aussi en dehors de la maternité.
Merci Fanny. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a certaines femmes qui s'en sont sorties. Voilà, c'est passé. Et je me retourne vers toi, Audrey. Comment c'est passé? Parce que toi, tu n'as pas eu de diagnostic concret. Comment t'es sortie de cette dépression?
J'en suis sortie parce que j'ai par des femmes, par la sororité en fait. J'avais envie de parler de le fait d'être devenir mère, de la femme en général, parce que j'ai trouvé que en fait c'est bizarre de le dire, mais en fait j'ai conscientisé notre force seulement après tout ça, pendant la grossesse, après l'accouchement. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, déjà, c'est génial d'être une femme, au final. Et que pour rien au monde, en fait, je serais un homme. Parce que donner la vie, c'est la plus belle chose au monde. Et en fait, j'avais envie, tout simplement, d'en parler autour de moi. Et de le faire en dansant. Donc, j'ai appelé des copines que j'avais dans la danse. Et on se connaît depuis très, très longtemps. Et donc, pour ne pas les citer, Mélodie et Stéphanie. Et en fait, j'avais envie d'écrire faire une création avec elles sur la femme, d'en parler, en fait. Et on a été toutes les trois très contentes de se revoir déjà et de se voir grandir, parce qu'on se connaissait 8 ans avant. Donc, on était sans enfants, on était dans un autre monde, en fait. Et là, on avait chacune grandi, on avait chacune évolué. Et en fait, on a été vulnérables. Et en fait, on a commencé à raconter notre mal-être, nous, en fait. On s'est raconté. Et il en est sorti de belles choses. Et j'ai commencé à de plus en plus en parler. Et donc, j'en ai parlé à mes cousines, parce que on est très pudiques, nous, dans la famille. Et donc, du coup, j'ai commencé à le dire. Et puis, avec mon collectif aussi, Courtrage Meuf, j'ai commencé à en parler aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en parlant, en fait, on n'était pas seuls, clairement. Et j'étais pas seule. Et puis voilà. Tout simplement, c'est comme ça, petit à petit. Après, j'ai pas claqué des doigts. Mais vraiment, c'est...
C'est pas du jour au lendemain.
Voilà, pas du jour au lendemain, mais en parlant, en tout cas.
Et aujourd'hui, on peut en parler. Tu travailles sur un documentaire que tu réalises.
J'avais envie de parler de la dépression de postpartum en général. Et puis j'avais toutes les infos sur moi, en fait, déjà, les vidéos, en fait, où je dis je suis fatiguée, je me sens pas bien, où j'en vois, mais au final, je sais pas ce que c'est à l'époque, mais maintenant, je sais que c'était parce que j'étais pas bien, en fait. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire un docu et de prendre des témoignages d'autres personnes, pardon, parce que j'ai des amis, j'ai une autre amie aussi. Il m'a dit, mais en fait, t'es pas toute seule. On est toutes dans ton cas. On a toutes eu des doutes. Et en fait, bref, je me suis un peu perdue dans tout ça, mais je sais plus ce que je dis. Pardon, je te crache dessus aussi en même temps.
On parlait de ton documentaire, mais je vais me retourner vers Fanny. Du coup, Audrey dit quelque chose de très intéressant, c'est le « on n'est pas toute seule ». C'est vrai qu'à ces moments-là, on peut se sentir seule et avoir des sentiments que personne n'a.
Oui, et c'est vrai que c'est important, la sororité, comme le dit Audrey. Et je trouve que c'est extraordinaire, vraiment et génial, ce genre de projet où par l'art, par ce qu'on aime faire, par ce que l'on était et ce que l'on est aussi, on arrive à communiquer. Audrey le fait à travers, tu l'as fait par rapport à la danse, et puis aujourd'hui tu communiques par rapport en faisant un reportage. Et je pense que chaque femme doit se demander, après avoir accouché, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de cette expérience, je reviens sur ce terme, extraordinaire. Parce que c'est vrai que pour avoir aussi donné la vie, c'est vraiment une expérience de pulsion de vie. Moi, je pense que jamais dans ma vie, je me suis sentie autant en vie et émerveillée que quand j'ai donné la vie. Et pourtant, c'est douloureux. C'est des douleurs qu'on oublie. Et c'est des douleurs, en fait, bizarrement, c'est des douleurs qui émerveillent, et encore plus bizarrement, Loïc, écoute ça, parce que nous, on te le transmet, mais toi, tu ne le vivras pas.
Ouais.
C'est des douleurs qui, quand tu les traverses, après, tu te sens vraiment très puissante. Tu te sens vraiment, tu te sens surhumaine. Et comme moi, je suis croyante, bah, ça m'a fait vraiment me sentir dans une espèce d'harmonie avec bah, tout ce que Dieu crée. Donc, en fait, c'est vraiment un moment charnière dans la vie d'une femme où on peut transformer ça en un outil de grande puissance. Et pour revenir sur la sororité, moi, souvent, quand je vois des femmes qui ont accouché et puis qui, justement, ont réussi à quelque part se reprendre en main ou qui, sont pas, qui ont réussi à... Parce que parfois, on n'y arrive pas, c'est dur, je le sais. Mais quand je vois des femmes, finalement, justement, qui ont repris leur force, souvent, je leur dis... Alors, je peux avoir l'air bizarre parce que c'est des gens que je ne connais pas, mais je vais les voir et je les félicite parce que je sais le chemin qui a été traversé. Et je sais que ça ne va pas de soi. Et donc, effectivement, quand des femmes témoignent ou quand des femmes se félicitent ou quand des femmes ne sont pas dans une espèce de rivalité ou vouloir écraser l'autre ou finalement avoir un mal-être et puis quelque part ne pas chercher à aider l'autre, quand les femmes se regardent et se disent « Je sais ce que tu as traversé et je le vois et je le reconnais », c'est vrai que ça fait du bien. Donc, je vais le faire là aussi. Audrey est une superbe femme, magnifique et très belle. Qui a manifestement réussi à se reprendre et à redevenir elle-même. Et donc, c'est un beau témoignage et je vous invite forcément à voir ce qu'elle crée. Ça donnera, à mon avis, beaucoup d'espoir pour toutes les femmes qui traversent ces étapes difficiles d'après l'accouchement.
En tout cas, oui, Audrey.
Et en fait, ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que tu dis et aussi de dire, en fait, c'est important d'en parler. C'est important qu'on sache, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis préparée à l'accouchement parce que je savais que c'était dur, mais je n'étais pas préparée à tout ce qu'il y avait autour. Et c'est important de libérer la parole et de dire, c'est magnifique hein, d'avoir un enfant. C'est la plus belle chose au monde, mais il faut que tu saches que ce n'est pas facile. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler et que ça ne devienne pas tabou, en fait. Ce n'est pas censé être tabou, tout ça.
Et je rajouterais, Loïc, parce qu'on parlait tout à l'heure de préparer de prochains sujets, mais là, je pense qu'on a une mine d'or parce qu'il faudrait parler de la culpabilité après maternelle qui t'accompagne toute une vie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, des remaniements, la question du couple. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, effectivement, dont on doit parler pour pouvoir se préparer et qu'après, de génération en génération, ça puisse changer un peu.
Ouais. Eh ben, on arrive à la fin de cette émission. On pourrait en parler des heures et des heures. Hein. C'était le sujet de l'émission était la dépression postpartum. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Audrey. Avant ça, je tiens à remercier la rédaction de Mon Paris FM avec Aboubacar Conté, le rédacteur en chef, Daniel Mendy, le directeur, Jason Lindor qui est à la technique et surtout toi Fanny, merci infiniment pour ta clairvoyance et tes mots qui ont toujours du sens, en tout cas à mes oreilles et je l'espère aux oreilles de nos auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission. Et d'ailleurs j'ai des retours et il y en a des très bons. Audrey.
Merci à toi Loïc, merci à toi Fanny. Et je voulais juste dire à toutes les personnes qui peuvent se reconnaître dans ce témoignage qu'en fait on n'est pas seul et qu'on est ensemble. Sachez-le, nous les femmes, nous sommes très très fortes et très puissantes en vrai. On est même plus puissantes que les hommes. Voilà, ça c'est une belle fin.
Et on va se quitter tout en musique avec une sélection de toi Audrey d'ailleurs. Pourquoi ce son, ce morceau ? Je donnerai le titre juste après.
Ouais, justement, c'est un son qu'on a utilisé avec du coup la compagnie Arpente, avec Stéphanie et Mélodie pour la création Women's Project, et c'est un son notre première création. Voilà, sur ce son.
Très bien. Alors on se quitte en musique avec Prince, How Come You Don't Call Me Anymore, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de On en parle sans tabou. À très bientôt. Gone. What a wild old baby, what we have.
Peggy F.A.M. Why must you talk to me?